Nous allons continuer notre étude, notre méditation que nous avons commencée sur le livre de l'épître de 1 Pierre, au chapitre 1, et le verset 1 jusqu'au verset 12. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer, nous allons considérer seulement le verset 6 à 9. Mais ouvrons nos Bibles et nous allons lire 1 Pierre 1, du premier verset jusqu'au douzième verset, que le pasteur puisse venir jusqu'ici pour m'aider, pour faire la lecture, le temps que je puisse un peu souffler.
Disons donc la parole de Dieu. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen.
C'est la parole de Dieu. Oui, donc, nous allons continuer notre méditation sur 1 Pierre, chapitre 1. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous allons considérer le verset 6 à 9. Le dimanche dernier, le pasteur nous a enseigné sur l'héritage indestructible qui est gardé pour les chrétiens par la foi. Et cet héritage, c'est le salut pleinement accompli en Jésus-Christ. Et on nous a enseigné aussi dimanche passé que il n'y a pas de vie chrétienne sans espérance. Le thème de notre adoration, méditation ce matin, c'est se réjouir malgré la souffrance. Se réjouir malgré la souffrance. Et depuis ce matin, nous avons commencé à adorer notre Seigneur avec ce thème de la joie. Et nous voulons aussi partager de cette joie, mais au milieu des épreuves, au milieu de la souffrance. Le fondement de la joie chrétienne est le salut en Jésus-Christ, comme il a été dit ce matin. Les circonstances présentes ne peuvent pas nous ravir la joie que nous avons pour cet héritage éternel qui nous attend, qui nous est réservé. Avoir des épreuves dans la vie ne signifie pas demeurer triste toujours. Non, ça ne signifie pas ça pour nous les chrétiens. Avoir la joie dans les épreuves ne signifie pas non plus aussi nier la souffrance. Vous pouvez avoir la joie tout en souffrant. Ça ne voudrait pas dire que la souffrance n'y est pas. La souffrance affecte tout le monde, riche ou pauvre, homme ou femme, chrétien ou non chrétien. Personne n'échappe aux épreuves, personne. Et parfois même, la souffrance peut donner un sentiment de désespoir. Mais la source d'espérance est en dehors de nous-mêmes. Elle est en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 10, l'apôtre Paul parle de sa propre expérience à travers les épreuves comme étant douloureuses, ces épreuves, mais l'apôtre Paul dit ces épreuves étaient réjouissantes pour lui. Il a fait cette expérience-là. Et dans toutes ses souffrances, il a éprouvé une grande joie. C'est ce qu'il dit, il a éprouvé une grande joie. Et voici ce qu'il dit dans Romains chapitre 5, le verset 3 à 4, ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4, il dit ceci, « Bien plus, nous nous réjouissons même de nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Voilà ce qu'il dit. Lui qui a expérimenté la souffrance, lui qui est passé par diverses épreuves, c'est ce qu'il déclare dans Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Notons que ce n'est pas la souffrance elle-même qui nous donne la joie. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui nous donne la joie. Mais ce qui nous donne la joie, c'est le résultat final que cela va produire dans nos vies. C'est ça qui est beaucoup plus important. La souffrance elle-même c'est difficile qu'il puisse donner la joie. Soyons honnêtes. On souffre, des fois on est attristé, mais en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous recommande, nous exhorte d'être dans la joie. Le verset 6 à 9 de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 9, nous montre que les chrétiens peuvent avoir une vraie joie, même au milieu de la souffrance. C'est ce que l'apôtre Pierre a écrit. Et en écrivant aux chrétiens persécutés, à cause de leur foi, il les exhorte à se réjouir malgré les diverses épreuves. C'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il dit. Et il donne les raisons pour lesquelles ces chrétiens persécutés, ces chrétiens qui souffrent, l'apôtre Pierre donne les raisons pour lesquelles ils doivent se réjouir. Et nous voulons le voir ensemble en trois points ce matin. Le premier point, la confiance, a un héritage gardé. La confiance a un héritage gardé. Le deuxième point, l'épreuve dans la foi. L'épreuve, pas dans la foi, mais l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Et le troisième point, l'honneur et la gloire promis. Alors, la confiance a un héritage garder. Si nous lisons le début du verset 6, le début du verset 6 dit ceci, c'est là ce qui fera votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Le début de ce verset dit, c'est là ce qui fait votre joie. La référence à ce début de verset 6, c'est là qui fait votre joie, nous ramène à ce qui a été dit au verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, qui détaille la raison de la joie chrétienne. La raison de la joie de ses frères qui étaient persécutés, à savoir l'héritage éternel protégé que l'Éternel garde par la foi pour les croyants, pour les chrétiens. Et les chrétiens peuvent se réjouir pour cela, malgré la souffrance. Il a été aussi dit le dimanche passé qu'il y a un héritage et un héritier. Et le pasteur nous a dit que les deux sont gardés par Dieu. Dieu garde les deux, l'héritage et l'héritier. Il garde l'héritage parfait pour nous qui sommes chrétiens. Et il nous garde aussi par la foi afin que nous ne perdions pas cet héritage. Frères et sœurs, la joie des enfants de Dieu est basé sur son bonheur à venir. Voilà notre joie. Quelles que soient les circonstances difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés durant notre vie ici-bas. Et comme vous le savez qu'à l'époque de l'apôtre Pierre, les chrétiens étaient persécutés à cause de leur témoignage pour Christ. Et voici l'exhortation que Pierre leur a adressée pour les encourager. Il leur a dit ceci dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 13. L'apôtre Pierre écrit ceci. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arriverait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voilà l'encouragement qu'il leur a adressé. Ce qu'il a dit à ses frères qui souffraient, qui étaient persécutés, que ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise. Et pour nous aussi, aujourd'hui, ces mêmes paroles sont adressées à nous aussi. Ne soyons pas étonnés qu'on puisse traverser des situations difficiles. Ne trouvons pas ça étrange. Ou trouver cela quelque chose d'extraordinaire. Mais nous devons nous réjouir. Réjouir pourquoi? Parce que nous prenons part aux souffrances de Christ, afin que nous soyons aussi dans la joie et dans l'allégresse quand il apparaîtra. L'apôtre Pierre leur rappelle la bienheureuse espérance qu'ils ont en Jésus-Christ et qui est au-delà des souffrances de ce monde. L'espérance qu'ils ont pour laquelle ils doivent être joyeux, cette espérance est au-delà de toutes les souffrances qu'ils peuvent confronter, qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Regardons encore le début du verset 6. Toujours au début, là où il est écrit, c'est là ce qui fait votre joie. Pour ceux qui aiment faire l'analyse grammaticale, tout ça, regardons le verbe qui est conjugué là. Ce verbe est conjugué au temps présent. Il est dit, c'est là ce qui fait votre joie. Le verbe est conjugué au temps présent. Ce n'est pas conjugué au futur. si se conjuguer au figuier, c'est, ça allait être quoi? Ça allait être, c'est là qui fera votre joie. Mais la parole de Dieu ne le dit pas, ne dit pas ça comme ça. La parole de Dieu dit, c'est là qui fait, au présent, c'est là qui fait votre joie. Donc cette joie qui doit se manifester dans la vie présente, maintenant, ici sur terre. Cette joie est au présent. Une joie continue et une joie qui vient, comme on l'a dit ce matin, une joie qui vient lorsque nous croyons aux promesses de Dieu, lorsque nous faisons confiance en lui, lorsque nous voyons cet héritage qui nous attend, nous avons confiance en cet héritage. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons à sa parole, nous croyons à, sa, à ses promesses. Nous savons que ce qu'il dit, ce que Dieu dit, il le fera. Et nous croyons en cela et nous avons confiance en cela. Si moi, le frère Marcel, je vous dis que mon frère Jérémy, dimanche prochain, je vais te donner 1 million d'euros. Tu ne me croiras pas, tu n'auras pas confiance en moi. Tu n'auras pas confiance en moi. Parce que la confiance que nous devons avoir dépend de celui qui dit la chose. Nous avons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit ça, mais c'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu lui-même qui dit ça et il accomplira cela. Voilà, une joie qui est au présent, une joie qui doit être au présent, maintenant même, pendant que nous souffrons, et qui doit continuer jusqu'à ce que le Seigneur apparaîtra. Cette joie ne dépend pas des circonstances ou des sentiments, mais il provient d'une part aussi d'une relation personnelle avec Dieu et d'autre part de l'assurance, comme on l'a dit, de l'assurance et de la confiance qu'on a de cet héritage qui nous est réservé dans le ciel. Oui, il faut avoir cette relation personnelle avec ton Dieu. C'est-à-dire, il faut être enfant de Dieu. Croire que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Avoir cette relation personnelle pour pouvoir avoir confiance à cet héritage-là qui nous attend. Dans le sermon sur la montagne, concernant la persécution des disciples, parce que les disciples allaient connaître la persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit dans le sermon sur la montagne ou dans les béatitudes, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, réjouissez-vous, tressaillez de joie. Voici ce que le Seigneur leur a dit dans Luc chapitre 6, le verset 22 à 23. Je vais lire pour vous, Luc 6, 22 à 23. Le Seigneur leur a dit ceci, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Ce n'est pas facile de dire ces choses-là à des gens qui vont connaître la souffrance et de leur dire que réjouissez-vous. Dans notre langage habituel, quand on voit que quelqu'un va vers un problème ou vraiment que c'est difficile, bon, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mon frère, bon courage, bon courage. Mais Christ a dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En tant que nouvelle création ou nouvelle créature en Jésus-Christ, nous avons cette espérance vivante pour obtenir un héritage impérissable et sans tache et qui ne disparaîtra pas. Ça a été dit le dimanche passé. Et cette assurance que nous avons doit aboutir à une joie abondante dans nos cœurs, malgré les circonstances par lesquelles nous pouvons traverser. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir, quelles que soient les épreuves. Voilà pourquoi les disciples devaient se réjouir malgré les épreuves qu'ils allaient traverser. Mais malgré tout ça, malgré la souffrance, la parole de Dieu nous dit que nous sommes gardés pour le salut éternel. Et dans sa prière sacerdotale, sa grande prière, avant d'aller à Golgotha, Jésus-Christ a prié pour ses disciples et il a prié aussi pour nous. Et il a dit, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, verset 11, il a dit ceci, « Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde et je vais à toi. Père très saint, garde-le en ton nom. » Voilà ce que le Seigneur a dit. Il a prié pour nous. Ils sont dans le monde. Moi, j'y suis plus. Je m'en vais. Eux, ils restent. Et il sait ce qu'on allait connaître comme persécution, comme souffrance, comme difficulté, comme persécution. Mais Jésus a prié, il a dit, garde-le, Père très saint, garde-le en ton nom. Et avant cela, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le grand berger, il a prié pour ses brebis. Il a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut me les ravir de la main de mon Père. Cet héritage est gardé pour nous et nous aussi nous sommes gardés par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui doit faire notre joie, malgré tout ce que nous pouvons connaître dans la vie. N'oublions pas cela, que cette joie puisse demeurer en nous et que cette joie puisse être conjuguée au temps présent. Cette joie doit être conjuguée au temps présent, pas dans le futur, mais maintenant, ici sur terre, pendant que nous vivons là. Et comme on dit un frère, pendant que nous sommes sur la terre des hommes, c'est maintenant que nous devons avoir cette joie de l'espérance en Jésus-Christ. Oui, nous sommes gardés par la puissance du Seigneur jusqu'à son retour. Et avec toutes ces paroles rassurantes, frères et sœurs, nous ne pouvons que nous réjouir malgré les épreuves et avoir confiance en cet héritage qui nous attend. Qui t'attend, qui m'attend. Ayons donc cette joie-là. Le deuxième point, c'est l'épreuve dans la foi. Dieu envoie parfois des épreuves pour prouver que notre foi est authentique. Et pourquoi? La Bible dit, afin qu'elle puisse aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Ou lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et dans ce texte, l'apôtre Pierre compare, si nous pouvons relire peut-être le verset 6 et le verset 9, en commençant par le verset 6, il est dit ceci, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En lui que vous aimez sans l'avoir vu et que vous croyez, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oui, des épreuves pour prouver notre foi, que notre foi est authentique, afin qu'il aboutisse à la louange, à l'honneur et à la gloire quand notre Seigneur apparaîtra. La foi est au cœur même de la vie chrétienne, frères et sœurs. Nous sommes sauvés par la foi, nous marchons par la foi, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais Pierre compare ici la foi à l'or. Et il dit que la foi est plus précieuse que l'or. La foi est plus précieuse que l'or. Pourquoi? Parce que l'or est périssable, mais la foi ne l'est pas. L'or est périssable, la foi ne l'est pas. Quand vous mourrez aujourd'hui, l'or est sans valeur. On peut vous enterrer avec vos bijoux en or. C'est sans valeur. Quand vous mourrez, l'or est sans valeur quand vous allez vous présenter devant le Seigneur. Mais il n'y a que la foi. Que seule la foi en Jésus-Christ, si vous mourrez aujourd'hui et que vous vous présentez devant le Seigneur, seule la foi en Jésus-Christ vous permettra d'avoir part à cet héritage éternel. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, que la foi est plus précieuse que l'or, parce que l'or est périssable, mais la foi ne l'est pas. La foi ne l'est pas. Tout comme l'or est raffiné par le feu pour éliminer les impuretés, moi j'ai déjà vu ça parce qu'une fois j'étais parti au pays. Bon, entre parenthèses, on ouvre et on ferme. Quand on travaille l'or, on le chauffe. Parce que l'or, c'est une pierre. Pleine de terre, pleine de ceci. Il faut être connaisseur pour le savoir. Si vous n'êtes même pas connaisseur, on peut vous prendre de l'argent pour rien, croyant que vous avez pris de l'or, mais en fait, ce n'est pas de l'or. Bon, ce n'est qu'une pierre qui n'est sans valeur. Et quand on travaille cet or, on le chauffe avec du feu. Et tu verras que toutes les impuretés partent. Et ce qui va rester, c'est vraiment de l'or pur. De l'or pur, sans impureté. Et la Bible dit que tout comme l'or est raffiné par le feu pour éliminer les impuretés, la foi chrétienne doit être raffinée aussi pour éliminer tous les péchés, éliminer les impuretés qui peuvent être dans notre foi. Voilà la raison pour laquelle nous connaissons des épreuves dans notre vie de foi. Et ces épreuves sont essentielles pour montrer l'authenticité de la foi. Quand vous prenez de l'or brut qu'on extrait de la terre, avec une pierre qu'on vous dit que c'est de l'or, il n'y a pas trop de différence. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous ne pouvez pas le savoir. Mais quand vous enlevez l'impureté, vous chauffez cette pierre-là, c'est là où vous verrez l'authenticité. Donc le vrai or, vous le voyez. Et la fausse pierre, vous verrez que ce n'est pas de l'or. Et ce que le Seigneur dit, c'est ce que la parole de Dieu dit, que les épreuves sont essentielles pour montrer l'authenticité de la foi. Mais quand les épreuves arrivent, ils peuvent apporter des larmes, des douleurs. La souffrance apporte des larmes. La souffrance apporte la douleur. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que tout cela doit aboutir à une foi qui, à la fin, va glorifier Dieu. Et là, c'est très important. C'est pour cela que nous devons être dans la joie. C'est une des raisons que l'apôtre Pierre adresse à nos chrétiens qui étaient persécutés en ce moment-là. Que non, ne trouvez pas ça étrange de passer par des moments difficiles. Oui, il faut que votre foi soit purifiée, soit secouée. Votre foi doit passer par le feu pour enlever les épreuves. Vous savez, je vais vous donner un exemple. À l'époque, nous qui venons des pays où il y avait la guerre, on est passé par des épreuves de la faim. Et ce que ce qu'on appelle maintenant ici la faim, une fois j'avais dit ça à mes frères, je dis, mais ce n'est pas la faim. Vous n'avez pas faim, frère. Vous avez envie de manger, mais vous n'avez pas faim. Parce que ceux qui ont vécu la guerre, qui ont fui la guerre, qui sont réfugiés dans la forêt pendant 3 jours, pendant une semaine, sans manger. Sans manger. Donc, c'est comme de l'or qu'on est en train de chauffer pour purifier de l'or. Et à cette personne-là, si vous lui dites que « Ah, je n'ai pas mangé depuis 6 heures du matin jusqu'à 15 heures, je n'ai rien mangé. » Il dit « Et alors ?» Pour lui, ça lui dit absolument rien. Il est passé par là. Il a été secoué, purifié. Et cette faim-là, de 6 heures jusqu'à 14 heures, pour lui, c'est rien. C'est pour ça que des fois, je dis à mes enfants que non. C'est que vous dites que vous avez faim de manger parce que depuis 6 heures du matin jusqu'à 15 heures, tu n'as rien mangé. Tu dis que tu as faim. Non, tu n'as pas faim. Par contre, tu as envie de manger. Et la foi, frères et sœurs, si vous avez passé par des épreuves, votre foi va grandir. Vous serez fort dans votre vie de foi. Certaines choses dans la vie qui vont bousculer certaines personnes, toi tu regardes, pour toi tu dis, c'est rien. Comme disait l'apôtre Paul, je considère ça comme de la boue. Pour lui ça lui fait absolument, non, c'est rien, il est passé par là. Entre guillemets, il est vacciné pour ça. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Oui, cette purification doit aboutir à une foi qui va glorifier le Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 12 dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est pour cela que l'épreuve de la foi apporte la joie. Et Dieu merci, on a chanté un cantique là, quand on chantait, c'est le cantique 75 qui disait ceci. Je vais chercher le cantique. Qui disait, c'est ce que, réjouis-toi mon cœur en Christ, il est toujours amour aîné, fais pas d'erreur, lorsqu'il nous éprouve, c'est pour qu'il nous trouve plus précieux que l'or. C'est pour qu'il nous trouve plus précieux que l'or. Et c'est très important. C'est pour cela que l'épreuve de la foi doit être un sujet de joie. De joie. Parce que cela va aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune épreuve ici-bas ne devrait affaiblir cette joie. Rien du tout. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, aucune épreuve ne peut affaiblir notre joie que nous devons avoir en Jésus-Christ. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Jacques 1, verset 2 à 4. Frères et sœurs, les épreuves sont réelles et le chagrin aussi est réel. Pourtant, n'oublions pas que les épreuves sont maintenant, mais pour un peu de temps. Elles sont diverses, de toutes sortes. Mais la Bible dit qu'elles sont là pour un peu de temps seulement. Un peu de temps seulement. un peu de temps par rapport à l'éternité qui nous attend. Mais la gloire dure pour toujours et durera pour toujours. Mais les épreuves sont là pour un peu de temps. Je pourrais même dire, si les épreuves étaient un produit de consommation, on allait même dire que les épreuves ont une date d'expiration. Parce que à un moment donné, il n'y aura plus d'épreuves. Elles sont là pour un peu de temps. Elles font souffrir, mais elles sont nécessaires dans notre vie de foi. Elles révèlent une foi authentique et les surmonter, c'est une preuve d'une foi véritable. Quand tu surmontes ta foi, surmontes toutes ces épreuves, oui, ça montre que vous avez une foi véritable. Une foi véritable. Job est celui qui a gardé sa foi authentique. Malgré tout ce qu'il a connu comme souffrance, il a continué d'espérer en l'Éternel. Et quand on parle de la souffrance, on cite beaucoup Job. Parce que ce que Job a connu, je crois que personne ne souhaite le connaître. En un jour, perdre beaucoup de choses, en quelques heures, ce n'est pas facile. Mais Job a gardé sa foi authentique. Et il a dit dans Job chapitre 13, le verset 15, voici ce qu'il a déclaré, il a dit ceci. Voici quand même l'Éternel me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Même si le Seigneur me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. Frères et sœurs, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, malgré les temps difficiles par lesquels nous pouvons être passés, gardons notre joie et notre espérance en Jésus-Christ. Comme l'a dit Job, je ne cesserai d'espérer en lui. Pourquoi? Parce que nous avons toujours en vue cet héritage qui nous attend, cet héritage qui est gardé pour nous. Et c'est ça qui doit faire notre joie dans les épreuves, dans la souffrance. Dieu utilise les épreuves dans nos vies, comme on l'a dit, pour éliminer les impuretés de notre foi. Mais parfois, les épreuves permises par Dieu font ressortir notre péché. Elles font ressortir notre incrédulité, notre manque de foi en notre Seigneur et des fois même cette incrédulité dont nous n'avions même pas conscience. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a testé la foi de son peuple dans le désert pour les humilier. La Bible dit que c'était pour les humilier, les éprouver et apprendre ce qu'il y avait dans leur cœur. Pourquoi? S'ils garderaient ses commandements et s'ils aimeraient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. S'ils aimeraient Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais Dieu avait testé aussi la foi d'Abraham. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi qu'Abraham a offert son fils à Dieu. Les épreuves de la foi sont nécessaires pour nous affermir, pour nous fortifier. Une foi authentique et une foi authentique, frères et sœurs, voit le Dieu invisible. Tu le vois, le Dieu invisible. Et le verset 8 nous dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Une foi authentique voit le Dieu invisible. Le Seigneur Jésus a fait quelques reproches à Thomas. Il a dit à Thomas à ne pas être incrédule, mais à croire. Si nous lisons cela dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, le verset 27. Jean chapitre 20, à partir du verset 27. Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont cru. » Oui, Jésus a fait cette reproche à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu m'as vu maintenant que tu crois. Alors qu'une foi authentique voit le Dieu invisible. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi, c'est croire sans voir. Croire sans voir. Et l'apôtre Pierre était avec Jésus pendant 3 ans. Il était témoin de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il écrit aux chrétiens persécutés qui n'ont jamais vu Christ. Ces chrétiens à qui l'apôtre Pierre s'adresse n'ont pas été témoins des enseignements de Jésus-Christ, ni de la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, la Bible dit, ils aiment Jésus sans le voir. Ils aiment Jésus sans le voir. Ils ont la foi en Jésus-Christ et se réjouissent pour le salut éternel. Et se réjouissent pour le salut éternel. C'est ça qu'il est écrit au verset 8. En lui, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et je pense que nous nous retrouvons aussi là-dedans. Nous croyons en notre Seigneur sans le voir, mais nous le voyons, le Dieu invisible, nous le voyons. Par la foi, nous le voyons. Et par la foi, nous croyons en lui. Nous croyons en lui et nous devons être joyeux, comme ce fut le cas de ce chrétien persécuté. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous devons nous réjouir de cette foi, de cette joie ineffable et glorieuse, parce que en ligne de mire, il y a cet héritage indestructible qui nous attend, qui est réservé pour nous et qui est gardé pour nous. Oui, la foi qui surmonte les épreuves dans la joie a pour résultat le salut éternel. Rapidement, le troisième point, c'est l'honneur et la gloire promis. L'honneur et la gloire promis. Lorsque nous voyons les mots comme l'honneur, la gloire, la magnificence, tout ça, nous lions souvent ces mots ou nous les associons à Jésus-Christ, à notre Seigneur, ce qui est tout à fait normal. Mais à cause de notre fidélité, pendant nos épreuves dans cette vie, nous partagerons la gloire, l'honneur, la louange qui appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous partagerons cela. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si nous persévérons, si nous restons fidèles, si nous demeurons dans la joie, malgré les multiples épreuves, situations difficiles par lesquelles nous pouvons traverser, si nous restons fidèles, nous partagerons cette gloire, cette louange, cet honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi authentique aura pour résultat la gloire et l'honneur pour notre Jésus-Christ. Le verset 9 dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oui, la louange, la gloire, l'honneur, quand Christ apparaîtra, et le prix de notre foi sera le salut de nos âmes. Et cela nous donne l'assurance et la joie qui doit caractériser notre vie ici-bas, quelles que soient les situations, quelles que soient les situations. Car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire et à venir qui sera révélée pour nous. Non, ça sera incomparable. Incomparable. Ces souffrances qui ne durent qu'un peu de temps, ça sera incomparable. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. C'est ce qu'est la parole de Dieu. Si nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Pour être héritiers avec Christ, nous devons aussi partager ses souffrances avec joie, comme Christ a souffert avec joie. Parce que nous partagerons aussi la louange, l'honneur, la gloire avec lui. C'est pour cela, Romains 8, 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Christ, mais si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Frères et sœurs, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. Voilà ce que la parole de Dieu dit. 1 Pierre 5, 10. Nous ne voyons pas ces choses tout de suite maintenant, mais quand le Seigneur apparaîtra, tout cela deviendra clair. Maintenant, nous ne le voyons pas. Mais quand le Seigneur apparaîtra, tout cela deviendra clair. C'est pour cela, frères et sœurs, quelle preuve pourrait l'emporter sur la louange, la gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra? Quelle preuve pourrait l'emporter sur tout cela? Rien du tout. La persécution, la faim, la nudité, l'épée, le Covid-19, est-ce que tout ça pourrait-elle l'emporter sur cette gloire qui nous attend? Rien du tout, frères et sœurs. Ayons cette joie, demeurons dans la joie. Bien que nous traversons tout cela, même bien que nous traversons par la persécution, la faim, la nudité, l'épée, le Covid, demeurons intacts dans la joie du Seigneur et gardons notre foi. Oui, pourquoi? Parce que toutes ces afflictions ne sont que pour un petit temps. Parce que cela va s'arrêter un jour. De Corinthiens 4, 17 à 18, il nous est dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Toutes ces choses ne sont que passagères, mais ceux qui sont invisibles sont éternels. Toute épreuve est passagère, mais la gloire qui nous est réservée, elle est éternelle. Voilà ce qu'il va faire, qui doit être le sujet de notre joie. Dans l'abondante grâce de Dieu, Lorsque nous partageons la souffrance du Christ, nous partageons également sa gloire et son honneur, comme on l'a dit. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt et il transformera nos gloires, nos souffrances en gloire. Il revient bientôt. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il revient bientôt, il transformera nos souffrances en gloire. L'épreuve de notre foi doit nous conduire à la louange, l'honneur, quand Jésus-Christ apparaîtra. Mais lorsqu'il apparaîtra, ça ne sera plus un Messie souffrant, mais un Messie glorieux que nous verrons. Un Messie glorieux que nous verrons et nous serons avec lui. Et si nous serons avec lui, nous partagerons sa gloire. Mais en attendant ces jours, frères et sœurs, et malgré les épreuves, réjouissons-nous de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ pour l'héritage qui nous est réservé. Et nous allons finir par ce verset qui dit, le verset 9, « Et nous nous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. » Voilà ce qui doit être le sujet de notre joie pendant notre vie ici sur terre, quand nous traversons par des moments difficiles. Gardons cette joie et cette espérance que le Seigneur nous a promis. Que le Seigneur bénisse sa parole.